Bonjour et bienvenue à ce 16e épisode de Discussion Techno entre geeks. Aujourd'hui, on va parler de Google et son mode incognito qui n'est pas si incognito, des plugins pour Pi-hole, de la liste des appareils compatibles pour iOS 14, de Zoom qui ne chiffre pas le plan gratuit et d'autres petites nouvelles ici et là. Salut mon ami.
Hey, salut, ça va?
Ça va, merci. J'ai vu une petite nouvelle passer de dernière minute que je trouvais super pertinente. C'est qu'il y a des chercheurs de l'université de Queens. C'est ça, Queens, c'est, je vais le dire comme faut.
Ouais, Queensland.
C'est le Queensland University of Technology qui ont découvert qu'ils pouvaient utiliser des cheveux frais coupés pour créer des petits écrans OLED.
En tout cas, ils feront pas grands écrans avec mes cheveux.
Ouais, vu de même. En gros, là, c'est que les cheveux sont une bonne source de carbone et de nitrogène. Puis, ils vont utiliser le cheveu, ils vont le faire chauffer à 240 Celsius. Puis, ce qui va résulter, bien, ça va créer, si on veut, ils vont l'utiliser pour faire des carbone nanodots. C'est plus petit que 10 nanomètres. Puis, ils prennent ça pour les mettre sur une surface qui va justement pouvoir être alimentée et ça va créer des petits écrans OLED, mais justement, il disait que c'est pas, on verra pas des télés peut-être, en tout cas peut-être pas tout de suite, mais des télés avec ça parce que ça prend quand même une certaine luminosité en arrière. Fait qu'on parlerait peut-être de des bracelets connectés, ça s'en vient aussi là, des câlins, l'affichage sur mettons les produits là, les dates de péremption.
Ah ok, ouais.
Ça pourrait être affiché sur des boîtes intelligentes, disons comme ça. Ça pourrait être des produits comme ça. Fait que c'est des écrans, si on veut, qui ont besoin d'un petit éclairage pour être fonctionnel. Ils pourraient même utiliser des poils d'animaux ou de la laine de mouton.
Okay, c'est n'importe quel cheveu en réalité.
Oui, c'est spécial, hein, pareil. Je ne me serais pas attendu à ça.
Que quelqu'un prenne le temps de découvrir ça en plus, là.
Oui. Puis la semaine passée, on a parlé du nouveau Raspberry Pi. On a oublié de mentionner un petit détail qui n'est pas tant important, mais que je pensais que c'était pertinent de le mentionner. C'est le nom du système d'exploitation qui s'appelait Raspbian. Maintenant, ça s'appelle Raspberry Pi OS. C'est un peu un nom générique, on dirait. Là. Je trouve que ça dénature un peu le produit. Ouais, pas dénature, mais tu sais, c'est qu'on donne un nom. On veut quasiment le même nom que le Raspberry Pi au système d'exploitation, mais ça a été fait pour faciliter.
Oui, c'est sûr, pour monsieur, madame, tout le monde, en réalité. On est toujours habitué à avoir mettons, il y a un Mac OS, il y a Windows OS.
C'est plus facile de se retrouver pour eux, parce que peut-être comme une personne serait arrivée, puis en fait, c'est quoi ce Raspbian? J'ai-tu vraiment besoin de ça?
Exactement. Puis il y en avait quand même plusieurs, il y avait Noobs. Je pense que c'est peut-être pas une mauvaise affaire pour rendre ça un petit peu plus accessible. En temps de nom, en tout cas.
Ouais, ben Noobs reste, je crois. C'est plus un espèce de, je veux dire, un launcher, mais c'est pas vraiment ça. Là. C'est plus un outil pour installer le système d'exploitation désiré sur ta carte. Ou c'est comme un bootloader un peu là, qui te permet de choisir ce que tu veux utiliser. Mais toi, t'as découvert un nouveau plugin pour Pi-hole, pour ton navigateur.
Oui, exactement. Donc, c'est quelque chose que je suis allé voir sur Reddit. Que si on n'en a pas déjà parlé, Reddit, c'est quand même une source excellente d'informations. Puis ça s'appelle Pi-hole Switch. Et ça fonctionne super bien, en tout cas sur Chrome. Je sais que tu as joué avec un peu avec Firefox.
Ben, je l'ai installé, mais je ne l'ai même pas configuré.
C'est ça. Puis là, sur ta version 2.0, puis il y a 2.2 qui sont en développement. Puis ce qui est intéressant avec 2.2, c'est que pour ceux et celles qui ont plusieurs instances d'un Pi-hole, mais tu vas être capable de gérer les deux à travers ce plugin-là. Puis qu'est-ce que ça fait? Mais moi, c'est sûr que j'ai mes besoins, mais entre autres, tu peux faire un défaut. Fait que mettons, tu cliques le bouton, puis par défaut, quand tu l'actives, ça va désactiver ton Pi-hole pendant, mettons, 5 minutes. Tu peux dire pendant 10 secondes. Fait que ça rend un petit peu plus accessible. Puis aussi l'opportunité de tester sur un site, parce que moi, je fais beaucoup de cuisine ces temps-ci. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de sites qui ont des recettes, ils ont la publicité. Donc, je suis capable facilement de soit le whitelister ou dire, OK, pendant que je fais ma recette, là, je vais désactiver la pub. Donc, c'est sur GitHub. C'est sûr qu'on va donner le lien aussi, mais il est accessible à travers le Chrome Extension Store. Puis je ne sais pas pour Firefox, j'assume que oui.
Oui, c'est la même chose dans le Firefox Browser Add-ons.
Mais ça fait quelques plugins qu'on joue avec. Puis honnêtement, pour l'instant, je dirais que c'est mon préféré. Parce que les autres qu'on avait découverts, c'était plus relié à un OS en particulier. Puis dans notre cas, c'était macOS. Donc celui-ci, ça le rend accessible à plusieurs OS, juste pas les appareils, vu qu'ils n'ont pas les plugins encore.
Moi, d'ailleurs, je l'utilise encore, celui pour macOS, là, plus, mais c'est sûr que je vais l'essayer, le plugin de navigateur, juste pour, comme tu dis, ajouter des sites à bloquer si tu te rends compte, ah, Colin, ce site-là, j'ai de la pub que normalement, j'aurais pas dû ou je veux pas aller sur ce site-là. Je trouve que c'est un bon complément. Là. Puis, il semble pas très gourmand en ressources dans un navigateur.
Non, mais pas plus que le navigateur est déjà un gros mangeur de ressources. Là.
Et mate, tu dis, c'est fou. Parlant de navigateur, les modes incognito sont pas aussi incognito qu'ils devraient être. On parle principalement de Google Chrome ces temps-ci, qui est arrivé avec. Qui a eu une. Sont en cours en Californie pour justement démontrer qu'ils ont utilisé les informations, suivi les gens, autant au niveau de l'appareil, de la localisation avec l'IP adresse ou le GPS, si c'est un téléphone cellulaire. Puis qu'au bout du compte, là, ça pourrait être une amende qui va de 5 000 par usager, je crois.
Oh, quand même.
Ouais, mais c'est semblerait que c'est un peu touché. Là. Je ne sais pas trop s'il faut que tu aies utilisé un google.com des États-Unis avec une adresse Google créée aux États-Unis. Mais en même temps, si ça fait une jurisprudence, ça peut peut-être arriver de...
Ça fait un boule de neige, puis ça reste...
Ouais, puis parce que, tu sais, les utilisateurs canadiens ou français ou belges sont autant touchés par ces trucs-là, je crois, que d'autres. On savait déjà que Google nous suivait de toute façon. C'est juste qu'il y a des gens qui ont peut-être cru que le mode incognito de Google Chrome était pas assez... était plus secure, mais c'est plus pour... T'as pas de fichier sur ton ordi, t'as aucun fichier d'historique qui est enregistré, mais ça fait pas que le site à l'autre côté, il sait. Il sait pas. D'ailleurs, justement, ça faisait partie. Il y a un autre truc relié à ça, c'est que il y avait une faille de Google Chrome en 2019 qui permettait au site que tu visitais de savoir que tu étais en mode incognito. Donc, d'ajuster en fonction de ça. On va parler entre autres de. Des fois, là, les journaux ou les médias écrits vont avoir une limite. Ou un abonnement, puis ils vont dire, ben, t'as 5 articles écrits par mois. Fait que là, les gens, pour contourner ça, disent, ben, je vais me mettre en mode incognito, puis je. Mais non, les sites sont capables de le faire. Fait que depuis 2019 que cette faille-là était supposée d'être corrigée, et qu'aujourd'hui, en 2020, c'est encore là.
Oh, quand même.
Mais je pourrais le répéter, utiliser autre chose que Chrome.
Ouais, c'est ça. Moi, en partant, je me fiais jamais sur l'aspect incognito de Chrome. J'avais quand même plus confiance en celle de Firefox, par exemple. Mais c'est sûr qu'il faut réaliser qu'incognito mode, là, ça ne te rend pas anonyme. Ni pour Firefox, ni pour Chrome, il n'y en a aucun qui te rend 100% anonyme. C'est vraiment juste une façon de rendre ton expérience locale anonyme, dans le sens que ce que tu as été visité, ça va se clairer quand tu fermes ton browser. Donc, moi, je m'en sers beaucoup, mettons, si je vais sur un site puis j'ai des problèmes. Mais à place de faire un clear cache, mais je me pars en incognito mode ou le même l'équivalent avec Firefox.
Ou d'avoir un deuxième onglet, si on veut, avec un compte XYZ qui est déjà ouvert dans l'onglet. Au moins, tu vas pouvoir te connecter puis il va faire distinction qui va les séparer un peu vraiment.
Oui, exactement. Il y a plusieurs autres outils qui t'aident, mais il faut réaliser que ça ne te cache pas de ton adresse IP. C'est ça que le monde faut qu'il réalise. C'est pas une façon de se cacher. C'est vraiment juste une façon de rendre ton expérience de browsing clear, mais local. Il n'y aura pas de cache, des affaires comme ça. Mais les sites sont quand même capables de savoir où tu es, ton adresse IP.
Ouais, puis les autorités aussi vont quand même être capables de te retracer. Malgré tout, si tu fais quelque chose de malveillant, ils vont savoir que c'est toi. Même s'il arrive sur ton PC, ils vont scanner ton PC. Mettons qu'il arrive un mandat ou peu importe. T'es pogné pareil. OK, ils trouveront peut-être pas de fichier sur ton PC, mais ils vont savoir que ça venait de chez vous. Là.
Exactement.
Pour rester avec Google, on avait parlé d'une rumeur il y a quelques semaines par rapport à un nouveau Chromecast. Finalement, il semblerait que ça s'avère à être un dongle Android TV qui serait peut-être annoncé un peu plus tard, peut-être en même temps que le Pixel 4a ou quelque chose comme ça.
Ouais, puis ça? Oui, ouais, c'est sûr que j'ai vu ça. Puis le nom de code, c'est Sabrina. Puis c'est sûr que Chromecast, on a acheté un il y a plusieurs années, moi et toi, quand ça sortit initialement. Puis les affaires que j'aimais beaucoup moins de ça, j'haïs utiliser mon cellulaire comme manette de télévision. Je trouve que c'est pas intuitif. C'est plate d'avoir besoin de... Tu prends ton téléphone, tu le débarres pour être capable d'après ça, naviguer. Puis en plus, il faut être dans l'application. Mais ça a l'air que les rumeurs qui ont sorti, c'est qu'il va venir avec sa propre manette maintenant.
Ouais, comme on avait vu qu'il était listé avec un numéro de produit. Là.
Exactement.
C'est une petite manette bien, bien simple de ce qu'on a vu, c'est que les gens chez XDA, ils ont vraiment décortiqué des firmware, puis ils ont trouvé aussi une vidéo, pas promotionnelle, un peu comme une vidéo promotionnelle, là, mais probablement qui était faite pour à l'interne de chez Google, là, pour montrer un peu où ce qui s'en allait avec ça. La télécommande, il y a comme un pavé tactile qui me fait penser à la roulette des iPods.
Oui, effectivement.
T'as un bouton back, un bouton Google Assistant, un bouton maison, un bouton favori, play, pause, puis muet. Et on peut penser qu'il va y avoir un micro dedans, parce que justement, tu peux Google Assistant avec.
Puis une grosse affaire aussi, c'est qu'ils abandonnent un petit peu l'aspect Chromecast, puis ça va être plus Android TV. Donc, il va avoir le OS d'Android TV, que là, ça commence à être un petit peu plus intéressant, parce que ça fait plusieurs fois qu'on dirait que Google, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire avec ces produits-là.
Ouais, qu'ils s'essayent, puis qu'ils. Avec Google TV, avec. Ouais.
Tu te souviens, le Sony qu'on avait là, plusieurs années?
Ouais, c'était un appareil de 2013 qu'on avait eu. C'était un bon appareil, mais.
Ça n'a pas duré
juste
longtemps.
Pas eu d'update. Il n'y a jamais eu d'update. Donc, un an plus tard, tu te ramassais que tu avais des applications qui ne fonctionnaient plus. Puis, je pense que là, en date d'aujourd'hui, YouTube ne fonctionnerait plus dessus. Quelque chose qui est intéressant aussi avec ce Sabrina-là, qui est le Dongle Android TV. C'est que tu vas pouvoir l'utiliser autant avec la télécommande, avec ton téléphone si tu préfères, comme les bons vieux Chromecast, mais aussi avec un assistant Google. Fait que tu pourrais le contrôler par ton haut-parleur dans ta maison. Puis fait que ça t'amène une belle variété d'utilisations possibles. Autant ouais. que, peut-être que quand tu vas écouter la télé, tu vas plus utiliser la télécommande, mais à un moment donné, peut-être que tu as les mains prises dans une recette, puis tu veux call in shot.
Mais je serais intéressé de voir si, mettons, ceux et celles qui ont des écrans intelligents, si on pouvait réutiliser ça comme manette aussi. Ça serait intéressant.
Oui. Ouais, ou tu sais, comme les télés Sony, qui sont déjà des télés Android TV, qui sont à peu près les seuls sur le marché présentement, on dirait qu'il y a juste Sony qui est resté dans cette ligne-là. Puis, si les télés vont se mettre à jour pour avoir la même interface graphique, parce que c'est une interface améliorée, qui va miser sur le contenu. Puis il y a une YouTube TV est intégrée aussi. Au Canada, on sait que c'est pas disponible encore, mais est-ce que ça l'arrivera en même temps, peut-être? On sait pas. Donc, c'est un super bel appareil, puis il serait listé peut-être pour 80 US.
Moi, qui est quand même très respectable comme prix. Parce que j'ai hâte de voir ça, mais j'attends avec anticipation.
Ouais. Puis t'as trouvé une liste des appareils compatibles avec iOS 14, toi?
Oui, mais ça, c'est une affaire que je dois donner une tape sur le dos à Apple. Je trouve qu'ils sont très bons à supporter leurs appareils portables pendant plusieurs années. On ne parlera pas des laptops et des desktops. Les autres, je trouve qu'ils ne supportent pas tout à fait assez longtemps, à mon goût, à moi. Mais quand tu es aux appareils, c'est très bien. Puis ce qu'ils disent, c'est que tout ce qui roule iOS 13 présentement, ils vont pouvoir aller à 14. Donc, on parle des appareils, les iPhone 6S, les 6S Plus. Donc, ça date quand même, ouais, là.
Qui étaient eux autres annoncés, rappelons-le, par rapport à des rumeurs précédentes. Avant qu'iOS 13 sorte, on parlait que, justement, le 6S serait sa dernière version disponible, compatible. Puis finalement, ben c'est pas le cas. Hein. Le iOS 14 peut-être serait supporté. Fait que, effectivement, je suis d'accord avec toi que les appareils sont fonctionnels un peu plus longtemps que la marque du robot, mettons. Ben, pas la marque, mais avec la plateforme du robot.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est pas juste la faute à Google.
On peut en rediscuter celle-là, mais tu vois, justement, l'iPhone 6S, c'est 2015. Puis juste pour retourner, c'est pas la faute à Google. C'est quand même Google qui ont les Pixels. Puis les Pixels, eux autres, ils garantissent juste 18 mois de security update. Puis après ça, tu sais, ça se peut que dans deux ans et demi, mon téléphone soit plus supporté, tandis qu'un iPhone 6S de 2015 est encore supporté avec le OS. Donc, c'est-tu la faute à Google? Moi, je dirais que oui.
Ouais, Google a une partie de son blâme. T'as bien raison de me ramener dans le droit chemin. Là.
Écoute, puis je trippe Android. J'ai toujours été un gros fan d'Android. Quand les Pixels ont sorti, je me disais, ah, finalement, ils vont peut-être commencer à les supporter aussi longtemps que les autres. Puis, c'est pas du tout le cas. Mais peut-être qu'ils vont commencer à changer d'opinion en voyant ce que Apple y font.
Oui, parce que là, ils commencent à jouer dans la même zone en ayant les deux des téléphones très, très abordables qui sont de super bonne qualité.
Effectivement.
Pour continuer un peu dans notre lancée, Zoom, la plateforme de vidéoconférence qui a décidé. Je pense que je vais juste faire un petit récapitulatif. Si je ne me trompe pas, bien que je ne sois pas un utilisateur de Zoom vraiment, je crois qu'ils annonçaient avant que les chiffres, que les conversations étaient chiffrées. Puis je pense qu'avec la COVID, ce qui s'est passé, c'est que il y a des gens qui ont mis plus la main dans le code de Zoom puis s'en rendent compte que non, OK, c'est pas chiffré, pas du tout. Et que Zoom aurait corrigé le tir en finalement offrant l'encryption sur les plans payants.
Et ouais.
Pour laisser la police avoir accès aux conversations des plans gratuits. Ça, c'est un petit peu... fort un peu, je trouve, comme... pas fort, mais je trouve ça un peu décevant comme tactique aujourd'hui. Là, alors qu'on priorise et qu'on prône la vie privée, de dire haut et fort que tu laisses tes conversations gratuites, non chiffrées, afin de donner ça aux autorités, je trouve que c'est un manque d'engagement envers ta communauté d'utilisateurs. Je comprends que c'est pas des plans payants, mais quand même.
C'est comme des utilisateurs qui pourraient potentiellement être des payeurs.
Effectivement.
Un jour à l'autre. Mais effectivement, moi non plus, je ne suis pas un utilisateur de Zoom. J'utilise d'autres plateformes à la place. Là, fait que je ne peux pas dire c'est l'expérience ou quoi que ce soit. Là.
Mais il y a d'autres, tu peux peut-être faire un petit rappel vite. Là. Il y a d'autres plateformes qui offrent du chiffrement gratuitement. On peut parler de Jitsi, qui est une plateforme vidéoconférence, jitsi.org, J-I-T-S-I.org.
Vu que tu mentionnes Jitsi, je mentionnerai aussi le fait que un des avantages de Jitsi, c'est que tu peux rouler un serveur localement.
Oui, et que tu n'as pas besoin de compte d'utilisateur. Ça, je trouve ça génial.
C'est ça. Fait que tu n'es pas dépendant sur une infrastructure gérée par eux. Tu peux vraiment en gérer un de ton bord sur ta propre infrastructure. Ça aussi, je trouve que c'est un avantage.
Oui. Puis tu t'arrives, tu te crées une salle, puis tu peux la mettre privée après coup aussi pour pas que les gens puissent rentrer nécessairement puis crasher ta session. Il y a Signal, qui est une application de messagerie qui offre du vidéo chat, mais pas en groupe pour le moment. Jammy, c'est une application faite par des gens d'ici en collaboration avec des Français et les gens de Savoir-Faire Linux, qui est une application de messagerie chiffrée, mais sans serveur, juste point à point.
Ok, un peu comme Tor ou des affaires comme des torrents.
Il y a pas c'est vraiment fait d'un bout à l'autre, puis il n'y a pas de serveur dans le milieu. Là. C'est pas toujours. Malheureusement, ça va pas toujours super bien. Je sais que ça s'est beaucoup amélioré dans les récents mois, années. Donc, ça fait à peu près 18 mois que l'application est là. Depuis les 12 derniers mois, ça va beaucoup mieux que ça allait. Là. Je l'utilise un peu à la maison. Mais des fois, je me ramassais que les messages ne se rendaient pas un bout à l'autre.
Mais un léger
ça vaut
détail.
La peine de l'essayer. Ouais, non, mais c'est ça. Mais depuis, ça s'est beaucoup amélioré. FaceTime est aussi quand même chiffré, malgré que tu es relié à Apple. WhatsApp, Google Duo et Skype. C'est sûr que c'est des alternatives qui sont toutes gratuites. Et en fonction de vos... Comment je pourrais dire? De vos... Je trouve pas mon mot, c'est plate, ça. En fonction de vos convictions, peut-être que vous déciderez d'utiliser une plateforme qui est plus open source versus une plateforme d'une entreprise connue. Ça, c'est selon vos besoins selon ce que vous croyez ou pas de la vie privée. Les solutions existent. À vous d'utiliser ce qui vous plaît.
Et les options, au moins.
Ouais. Mais je trouve un gros pouce en bas pour Zoom. Pour ça, moi, ils viennent pas me chercher, mais pas du tout.
Non, moi, ils ne venaient pas me chercher en partant, puis ils viennent pas plus maintenant.
Tu voulais nous parler d'une application que tu utilises depuis un certain temps qui est ARQ Backup.
Oui, effectivement. Donc, moi, j'ai toujours été un assez... je pousse beaucoup les backups. Je trouve que c'est très important. Depuis un incident, il y a plusieurs années, puisque j'ai perdu un disque dur, j'ai dit « ça m'arrivera plus jamais ». Et j'avais trouvé d'autres solutions entre-temps. J'avais CrashPlan, que j'ai beaucoup apprécié pendant le temps que je m'en suis servi. Mais ils ont décidé de... comment je dirais, de lâcher un peu madame, monsieur, madame, tout le monde, puis mettre beaucoup plus de focus sur les entreprises, soit que ce soit petit ou gros. Donc, je cherchais une solution. Et maintenant, avec les expériences que j'ai vécues avec CrashPlan, avec le fait que j'avais plus de backup, puis des rsync, des commandes de Linux de base, j'ai trouvé sur une petite gemme qui s'appelle ARQ Backup. Donc, c'est un produit très abordable. Moi, j'avais acheté dans le temps, c'était 50 $ US pour, c'était par compte. Je sais pas c'est quoi. Aujourd'hui, je regarde maintenant, puis je vois c'est 49 $ par ordinateur, puis un premium qui est 6 $. Puis honnêtement, j'ai pas pris assez le temps de faire mes recherches, les différences des licences. Mais ce que je peux parler, par contre, c'est, ça fait quand même plusieurs années que je m'en sers, excusez-moi. Puis, une de ses forces que je trouve d'ARQ Backup, c'est que tu peux faire des backups n'importe où, quasi. Puis aussi le fait qu'il y en a beaucoup de logiciels que si tu as des mount points, donc un mount point, c'est quelque chose que tu vas rattacher qui est sur un serveur ailleurs dans ton réseau, tu es capable d'avoir un mount point puis même faire un backup de ce mount point-là. Puis moi, personnellement, ce que je me sers, c'est OneDrive de Microsoft. Puis ça me permet de faire mes backups dans OneDrive. Puis c'est un gros fichier qui est encrypté. Donc ça aussi, je trouve que c'est très bien. Puis mettons la journée que Microsoft, où je suis plus content avec la plateforme OneDrive, je vais aller ailleurs. J'ai juste à prendre mon backup set puis je l'amène ailleurs. Fait que j'ai vraiment un backup set continu. J'ai pas besoin de recommencer à zéro. C'est évolutif. Puis un peu comme Time Machine, fait que t'es capable d'aller dans le passé. Tu veux dire de quoi, Eric?
Ben, tu peux-tu faire des... comme on faisait avec CrashPlan, tu sais, on veut backuper chez l'un et l'autre. Tu peux-tu avoir plus qu'une destination
Absolument.
De backup, OK?
Absolument. Puis tu peux avoir plusieurs profils de backup. Fait que tu peux dire un profil, je vais faire un backup intro chez Eric. Puis ça inclut juste un certain fichier. Puis je peux dire une autre solution, ça va aller ailleurs. Puis... on parle de plusieurs affaires, donc il y a Backblaze, Amazon S3, Amazon Drive, Dropbox, Google Cloud, Google Drive, OneDrive, SharePoint, SFTP qui comblerait un peu ce que tu viens de dire ou ce que ça me permettrait de me connecter sur toi à travers un SFTP, Wasabi, les mounts de Windows, fait que si tu veux faire un local, tu es capable, des disques USB, fait que tu peux le faire que quand tu te mets ton disque USB, il va partir le backup. Puis des serveurs compatibles avec S3, qui est encore un service de Amazon.
Ouais, ça semble super intéressant. Je sais que ça fait quand même un bout de temps que tu m'en parles, je pense, depuis que CrashPlan nous a laissé tomber. Juste pour faire un petit wrap autour de ça, juste le prix, c'est 50 $ US pour un ordinateur ou 5 pour un family pack à 80 $, mais c'est un one-time purchase.
Oui, c'est ça.
Tu l'achètes une fois. Mais si tu veux le premium, qui est un abonnement mensuel ou annuel, à 6 $ par mois, un peu moins si tu y vas en annuel. Ça te permet de faire du backup dans des serveurs chez eux.
OK, c'est ça que je pensais.
Puis tu peux choisir le data center que tu veux. Donc, mettons, il y en a 3 aux États-Unis, 1 en Finlande, Belgique, Pays-Bas, Singapour ou Taïwan, en fonction de où est-ce que tu veux que tes informations soient. Au moins, je trouve ça le fun qui te permette de choisir.
Oui, effectivement, parce que tu veux peut-être le garder local, parce que des fois, il y a des pays qui sont plus permissifs que d'autres. À regarder ton data. Donc, si c'est quelque chose qui est sensible pour toi, mais tu as cette option-là aussi. Puis, d'autres options que je trouve très intéressantes avec ce logiciel-là, il y a des capacités de dire si tu es sur tel Wi-Fi ou telle interface, tu ne feras pas de backup. Si tu es sur batterie, donc tu ne veux pas consommer trop de batterie, tu peux limiter ta bande passante. Fait que si tu as un plan qui n'est pas illimité par mois, mais tu peux limiter la quantité que tu envoies. Puis comme je te dis, une des choses que j'ai trouvé que la plupart des autres plateformes n'offraient pas, c'est d'inclure des network shares.
Et puis, est-ce que... j'ai comme perdu ma question, mais juste aussi dire, il y a un remboursement garanti de 90 jours si tu n'es pas satisfait. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Ça te permet d'essayer pas juste 30 jours. Tu l'essayes 3 mois, tu sais.
Oui, c'est ça. Je peux pas dire si c'est bon, s'ils vont vraiment te rembourser ou quoi que ce soit, parce que comme tu dis, moi, je suis bien satisfait. Puis ça roule sur Mac, ça roule sur Windows. Je pense qu'ils n'ont pas de Linux présentement, mais c'est peut-être une question de temps aussi.
Comme toi, tu l'utilises-tu dans ton NAS ou c'est quel ton ordinateur qui fait ça?
Là, j'ai un petit ordinateur, un Mac Mini, que c'est lui qui est comme mon serveur, qui retient toutes les informations. Enfin, quand lui, il boot, mais là, il envoie les data dans mon OneDrive. Mais je regarde à refaire un petit peu ma solution. Parce que
c'est lui qui va gérer tes backups avec tes endpoints que tu as nécessairement avec lui ou peu importe.
Oui, mais comme moi, je l'ai sur tous mes ordinateurs, fait que c'est les ordis de mes enfants aussi. Vu que la licence que j'avais, c'est mon compte, que j'ai le droit de le mettre sur plusieurs ordinateurs. Puis lui, il me permettait de faire juste certains backups. Fait que je ne fais pas un backup du OS au complet. Je choisis vraiment les paramètres que je veux pour les comptes des enfants.
Puis tu choisis, j'imagine, la fréquence des backups aussi,
oui,
si tu veux.
Oui, exactement. La fréquence, le temps. Puis tu peux aussi le faire une validation. Aussi, il va valider tout, s'assurer que c'est correct. C'est pas juste envoyer « set and forget ». Mais... Une affaire qu'il faut que je mentionne, c'est une solution de backup. Il n'est jamais bon tant que tu n'as pas eu besoin de l'utiliser. Donc, c'est vraiment important de valider de temps en temps, s'assurer que oui, ce que tu as fait un backup, quand tu as essayé de faire un restore, que ça fonctionne. C'est le seul temps que tu vas savoir si une solution de backup fonctionne. C'est quand tu as besoin de l'utiliser.
L'interface assemble bien aussi, excuse-moi.
Oui, c'est très bien, très simple.
Ça ressemble un peu à CrashPlan, mais je regarde pour l'onglet de restauration. Tu peux aller choisir le fichier que tu veux restaurer, pas juste, tu n'es pas obligé de restaurer la totale.
Exactement, oui. C'est très simpliste, c'est pas compliqué comme interface.
Ce que j'aimais pas de CrashPlan, c'était son interface Java.
Oui.
Oh my God, c'était pas le fun ça. Mais le reste, ça ressemble quand même un peu, j'aime ça.
Ce qui était bien, par contre, avec l'interface de Java de CrashPlan, c'est que tu pouvais le rouler dans les Docker, que celui-ci ne te permet pas de faire présentement.
Effectivement, mais je pense que tu m'as eu, je pense que je vais y aller vers ça. Ça a repris cet épisode de podcast que tu m'en parles versus tous les mois que tu m'en as vanté les mérites, et puis je pense que je vais faire le saut et que je vais l'essayer pour vraiment avoir une solution de backup fonctionnel et efficient.
Je suis sûr que tu ne regretteras pas. Autant que tu as aimé CrashPlan quand je t'ai convaincu, je pense que tu vas aimer celui-ci encore plus.
Ah ben merci. Puis juste aussi, c'est ARQ. C'est pour, des fois, on le prononce, ça peut être difficile pour les gens. Là. Et ARQ Backup. Mais les liens sont ils vont être dans les notes d'épisode, évidemment. Tu voulais-tu rajouter quelque chose sur ce sujet-là? Parce que je t'ai un peu interrompu. Là,
non, c'est beau. J'ai dit ce que j'avais à dire à ce sujet.
J'aimerais finir l'épisode sur une note un peu plus sensible avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, puis que je sais qu'on n'est pas un podcast politisé ou vraiment avec des revendications, mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ça touche tout le monde, puis ça va démontrer un peu avec ce que je veux parler. Dans le fond, c'est que par rapport à la lutte contre le racisme présentement, vous avez sûrement vu dans vos fils d'actualité, autant sur Twitter, Instagram, peu importe, que les hashtags étaient très populaires puis que ça pouvait être des fois même malaisant par rapport à ce qui a pu se passer, si on veut, avec des gens qui vont utiliser des hashtags, si on veut, de Make America Great Again ou White Lives Matter et patati patata. Ben, il y a des fans de culture coréenne, de K-pop, qui ont comme un peu attaqué ces hashtags-là, si on veut, qui ont mis des photos puis des vidéos de K-pop avec les hashtags MOGA et White Lives Matter pour justement diluer les messages racistes puis donner plus de visibilité aux messages convenable, si on veut, parce que ça se voulait des messages un peu haineux qui étaient avec ces hashtags-là. Puis je trouve que c'est une bonne utilisation de tout ça, de renverser la vapeur puis pour utiliser les algorithmes. Tu sais, les facteurs, dans le fond, les algorithmes, les gens cherchaient ça, puis « Ah, ben tiens, je vais voir ça. » Puis là, ben le fil d'Instagram, si on veut, au lieu d'avoir des images haineuses ou peut-être plus ou moins pertinentes, parce que des fois, c'est des gens qui utilisaient ça pour faire des messages qui allaient à l'encontre de ce qui se passe. Fait que la K-pop a utilisé ça. Je trouve ça vraiment génial. Mais j'ai l'impression que ça s'est passé sur Twitter un peu, puis Instagram, parce que j'ai regardé dans les dernières heures, puis sur Instagram, il y en avait encore beaucoup, mettons, quand je cherchais les hashtags spécifiques. Tandis que sur Twitter, ben là, les messages haineux avaient repris le dessus un peu, là. Mais je trouve que c'est une belle utilisation, si on veut, des ressources communes qu'on a. Puis c'est une belle mobilisation. Puis d'ailleurs aussi, il y a eu des hackers qui ont comme pris d'assaut les ondes radio de la police de, et je me souviens plus quelle ville, je pense que c'est Chicago, et qui ont fait mettre, dans le fond, ils utilisaient les ondes radio, les fréquences radio de la police, puis ils ont fait mettre de la musique, je sais pas si tu t'en rappelles, Chocolate Rain.
Oui.
Une vidéo virale de...
Le gars avec la voix super grave, là.
Ouais, ben c'était ça qui jouait sur les fréquences radio de la police, fait qu'il était même pas capable de se parler avec le central pour avoir allé sur les bons, sur les câbles anti-émeute ou peu importe. Fait que ça aussi, je trouve que c'est quand même pertinent. Il y a des gens qui mettaient ça sur le dos de le groupe de hackers Anonymous, mais j'ai pas vu de revendication XYZ. Là. Quoique bien souvent, ces gens-là, ils revendiquaient pas nécessairement le... Ils veulent pas être populaires. Là. Anonymous, c'était pas... leur but, je pense, c'était pas non plus de vanter leur mérite, mais plutôt de faire passer des messages.
C'est quand même bien. Il y a quand même beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises aussi qui passent des bons messages à ce sujet. C'est quand même pas un sujet à prendre à la légère, mais c'est important de se faire entendre aussi.
Ouais, puis si on peut arriver à avoir une société égale pour tout le monde,
exactement.
Ce serait le but ultime de ça. Je sais que ça se fait pas demain, mais c'est des actions qu'on peut faire au quotidien. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai trouvé un site web qui est comme une espèce de répertoire de commerce que c'est des personnes noires qui sont propriétaires au niveau du Canada. Ça s'appelle afrobiz.ca. AFROBIZ. Et malheureusement, le site web est un peu mal fait. Pas super facile de s'y retrouver, mais il y a des villes, tu peux y aller par ville, puis mettons, tu choisis Montréal, puis tu vois, mettons, après par catégorie, si on veut, les salons de coiffeur, les restaurants, des magasins ou des offres de services de comptabilité, mettons. Fait que ça peut être bien, mais j'ai aussi trouvé un chiffrier Google Sheets, justement, de restaurants montréalais, ben du Grand Montréal, disons ça comme ça, de opérés par des personnes noires, avec les adresses et numéros de téléphone, puis le type de nourriture qui est offerte. Fait que si vous voulez encourager ces gens-là, ben essayez des nouvelles choses ou je pense que ça peut valoir la peine de donner un coup de pouce des fois à ces gens-là qui l'ont eu peut-être moins facile aussi, puis de briser un peu briser le code, briser ce qui se passe.
Les stigmas.
Ouais, effectivement. Fait que les liens, effectivement, vont être là-dessus aussi. Sur ça, je pense qu'on peut finaliser l'épisode avec notre message habituel. N'hésitez pas de nous envoyer vos commentaires. On est toujours super intéressés à s'améliorer. Sinon, vous pouvez nous donner des petits commentaires dans vos plateformes de podcast pour peut-être que les algorithmes nous aiment un peu mieux pour le présenter à d'autres. Et puis finalement, quelque chose que peut-être on n'a jamais demandé, mais n'hésitez pas à parler du podcast et à le partager avec vos amis si vous trouvez ça pertinent. Parce que plus il y a de gens qui vont nous écouter, c'est comme la machine à saucisses. Hein? Plus on fait de saucisses, plus on en mange, plus elle est meilleure, plus blablabla. Je sais pas, nous autres, on fera pas de saucisses, hein, mais... Bref. Merci d'être là. Merci François, ça fut aussi agréable. Puis on se reparle bientôt pour un nouvel épisode de Discussion Techno entre geeks.
À la prochaine!